Alexandre Dumas, bric-à-brac, un fait personnel. Parlons d'une lettre de moi qui a fait beaucoup plus de bruit que je le désirais qu'elle en fît, et surtout qu'elle m'était appelée à en faire. Un jour, un de mes amis va me dire tout indigné que Mademoiselle Augustine Brohan, correspondante du Figaro sous le nom de Suzanne, venait, sinon d'insulter, du moins d'attaquer Victor Hugo. Je voudrais qu'une fois pour toutes on comprît bien le triple sentiment qui m'attache à Victor Hugo. Je le connais depuis la soirée de Henri III, c'est-à-dire depuis le 11 février 1828. Depuis ce jour, il est mon ami. Depuis longtemps, j'étais son admirateur, je le suis toujours. Seulement, aujourd'hui, à ces deux sentiments, s'en joint un troisième pour lequel je cherche inutilement un nom. C'est au cœur de le comprendre, mais la langue ne peut l'exprimer. Victor Hugo est proscrit. Et qu'éprouve de plus pour un homme proscrit, celui qui déjà l'aime et l'admire? Ben, quelque chose comme une religion. Eh bien, c'était contre cette religion que, à mon avis, venait d'être commis un acte qui ressemblait à un sacrilège, surtout de la part d'une artiste dramatique, surtout de la part d'une actrice qui a joué dans les pièces de Hugo, surtout de la part d'une femme. Le coup qui ne pouvait atteindre Hugo me frappa profondément. Je pris la plume et, sans intention aucune de publicité, j'écrivis à monsieur le directeur du Théâtre Français la lettre suivante. Monsieur, j'apprends que le courrier du Figaro signé Suzanne est de Mademoiselle Augustine Brohan. J'ai pour monsieur Victor Hugo une telle amitié et une telle admiration que je désire que la personne qui l'attaque au fond de son exil ne joue plus dans mes pièces. Je vous serai en conséquence obligé de retirer du répertoire Mademoiselle de Belle-Île et les Demoiselles de Saint-Cyr, si vous aimez mieux distribuer à qui vous voudrez les deux rôles qui joue Mademoiselle Brohan. Veuillez agréer, etc., Alexandre Dumas. Je savais parfaitement que je n'avais pas le droit de retirer mes pièces du répertoire. Je savais parfaitement que je n'avais pas le droit de retirer mes rôles à Mademoiselle Brohan. Je protestais, voilà tout. Si j'eusse eu le droit de retirer mes pièces ou rôles, je les eusse retirés par huissier et n'eusse point écrit au directeur. Je crus un instant, en effet, que l'on avait accédé à ma prière. On joua les demoiselles de Saint-Cyr, et Mademoiselle Fox avait repris le rôle de Mademoiselle Brohan. Mais on joua Mademoiselle de Belle-Île et Mademoiselle Brohan avait conservé son rôle. C'est alors seulement que je crus que ma lettre devait être publiée et que je la publiais. Cette lettre fit un effet auquel j'étais loin de m'attendre. Je n'y avais vu qu'un acte d'amitié. On y vit un acte, ou à peine osais-je le dire, un acte de courage. De courage, bon Dieu, on est courageux à bon marché par le temps qui court. La lettre eut un écho rapide dans un grand nombre de cœurs. Je reçus 50 cartes, je reçus 20 lettres. Je me contenterai de citer 3 de ces lettres. Monsieur Alexandre Dumas, ce sont d'obscurs citoyens inconnus de vous, inconnus de monsieur Victor Hugo, qui au nom de la gloire et de l'infortune installées par une femme viennent dans toutes les fusions de leur cœur vous remercier de votre noble lettre à monsieur Empis. Général Travaillot, Auguste Ollier, Salvador Bert, Jean Godard. Cher Dumas, du fond de notre Chartreuse où votre souvenir est avant comme partout où nous vivons, je vous embrasse avec la plus vive tendresse. C'est un élan de cœur qui vous remercie de vous ressembler toujours, fidèle ami du malheur. Pauline a bondi pour m'apprendre cette sublime et simple protestation qui soude ensemble les deux plus grands cœurs du monde et de deux plus chères gloires. La sienne s'appelle souffrance et la vôtre bonté. Merci pour nous tous de la part du bon Dieu. Marceline. Footnote, Madame Delborde, Valmer. Cher Dumas, les journaux belges m'apportent, avec tous les commentaires glorieux que vous méritez, la lettre que vous venez d'écrire au directeur du Théâtre français. Les grands cœurs sont comme les grands astres, ils ont leur lumière et leur chaleur en eux. Vous n'avez donc pas besoin de louanges, vous n'avez donc pas même besoin de remerciements, mais j'ai besoin de vous dire, moi, que je vous aime tous les jours davantage, non seulement parce que vous êtes un des éblouissements de mon siècle, mais aussi parce que vous êtes une de ses consolations. Je vous remercie. Mais venez donc à Guernesey, vous me l'avez promis, vous savez. Venez y chercher le serment de main de tous ceux qui m'entourent et qui ne se presseront pas moins filialement autour de vous qu'autour de moi. Votre frère, Victor Hugo. N'est-ce pas trop, en vérité, de trois lettres pareilles en récompense d'avoir accompli un simple devoir, cédé à un premier mouvement du cœur? Ah, monsieur de Talleyrand, vous avez profité à proférer un grand blasphème quand vous avez dit « Ne cédez pas à votre premier mouvement, car c'est le bon ». Mais, comme vous vous êtes enlevé une grande joie en le mettant en pratique, j'espère que Dieu ne vous a pas imposé d'autres punitions en l'autre monde que celles que vous nous aviez faites à vous-même en celui-ci. Le cœur de désapprobation qui s'était élevé contre Mademoiselle Auguste Brohan était tel qu'elle crut devoir me répondre. Un matin, on m'apporta le Constitutionnel et j'y lus cette lettre. « Monsieur le rédacteur, j'ai lu dans l'Indépendance belge une lettre par laquelle M. Alexandre Dumas, père, invite M. l'administrateur général de la Comédie-Française à retirer du répertoire les pièces de Mademoiselle de Bénite et Mademoiselle de Saint-Cyr, ou à distribuer à une autre artiste les rôles dont je suis chargé dans ses ouvrages. M. Dumas sait très bien qu'il n'a le droit ni de retirer les pièces du répertoire, ni d'en changer la distribution. Il doit savoir également que depuis plus d'un an, j'ai spontanément renoncé, en faveur de Mademoiselle Fox, au rôle un peu trop jeune pour moi de la pensionnaire de Saint-Cyr. Ce qu'il ignore peut-être, c'est que je n'ai joué le rôle secondaire de la marquise de Prie et dans Mademoiselle de Belle-Île pour les débuts de Mademoiselle Stella Colas qu'à regret et sur les instances réitérées de M. Empis. J'y renoncerai avec empressement le jour où le jugera convenable M. l'administrateur du Théâtre français à qui j'ai été heureuse de prouver en cette occasion mon désir de lui plaire. Quant à la leçon que M. Dumas prétend me donner, je ne saurais l'accepter. J'ai pu, dans un moment inopportun peut-être, porter un jugement consciencieux sur des actes et des écrits que l'auteur lui-même livrait au public. Je ne blessais ni d'anciennes amitiés, ni même d'anciennes admirations. Mais dans ces questions délicates, moins qu'à personne, il appartient de prendre la parole à l'homme qui n'a pas su respecter dans ses anciens bienfaiteurs un exil doublement sacré, agréé, etc., à Brohan. Nous ne sommes de l'avis de Mademoiselle Brohan ni sur le rôle de Mademoiselle Mauclair, ni sur celui de Madame de Prie. Mademoiselle Auguste Brohan, âgée de 37 ans à peine, et toujours jolie, pouvait parfaitement jouer le pensionnaire de Saint-Cyr, puisque Mademoiselle Mars, à 50 ans, jouait celui de la Duchesse de Guise, et à 58, celui de Mademoiselle de Belle-Île. Quant au rôle secondaire de Madame de Prie, qu'elle a joué par complaisance, dit-elle, peut-être est-il devenu un rôle secondaire aujourd'hui, mais du temps de Mademoiselle Mante, c'était un premier rôle. J'en appelle à tous ceux qui ont vu jouer à cette éminente actrice. Passons à mon ingratitude envers mes bienfaiteurs. Je ne discuterai pas avec Mademoiselle Brohan la signification multiple de ce mot bienfaiteur. Je le prends dans son sens ordinaire et moral. Donc, quant à mon ingratitude envers mes bienfaiteurs, je remercie Auguste Bottine Brohan de me placer sur ce terrain. Je vois que, malgré ma lettre, elle est restée toujours mon amie. Attaquée, je dois répondre. Ceux qui ont lu mes mémoires savent qu'entrer dans les bureaux du duc d'Orléans en 1823, sur la recommandation du général Foy, j'y reste 7 ans. Une année comme expéditionnaire à 1200 francs, 3 ans comme employé au secrétariat à 1500 francs, 2 ans comme commis d'ordre à 2000 francs, 2 ans comme bibliothécaire adjoint à 1200 francs. Là, se sont bornés à mon égard les bienfaits du duc d'Orléans, Louis-Philippe, bienfaits en échange desquels je lui consacrais 9 heures de mon temps par jour. En 1830, je donnais ma démission de bibliothécaire adjoint afin d'avoir le droit non seulement d'avoir une opinion, mais encore de la dire tout haut. Je perdis immédiatement la protection de mon bienfaiteur couronné, et jamais depuis je ne le reconquis, ni n'essayais de la reconquérir. Mais, en compensation, je conservais une amitié bien précieuse, celle du prince royal. Ah, celui-là fut mon véritable bienfaiteur. J'obtins de lui la grâce d'un homme condamné aux galères. J'obtins de lui la vie d'un homme condamné à mort. Aussi envers celui-là, ma reconnaissance ne s'est point démentie. Je l'ai aimé et respecté, vivant et mort, je le vénère. Racontons en 2 mots comment ce notaire nouèrent plus tard les relations que j'eus l'honneur d'avoir avec M. le duc de Montpensier. C'était à la première représentation des Mousquetaires à l'Ambigu, le 27 octobre 1845. La pièce en était au 8e ou 10e tableau, était en train de conquérir le succès, qui se traduisit par 150 ou 160 représentations consécutives. Le duc de Montpensier assistait à la représentation. Pasquier, son chirurgien, m'a frappé à ma loge. « Le duc de Montpensier te demande, me dit-il. Pourquoi faire ? Mais pour te faire ses compliments. » Je ne le connais pas. Vous ferez connaissance. Je suis en redingote et en cravate noire. Jour de triomphe, on n'y regarde pas de si près. Je suivis Pasquier. 3 mois après, la direction du théâtre historique était accordée à M. Ostein. 1 an plus tard, le théâtre historique jouait la Reine Margot comme pièce d'ouverture. Je paye aujourd'hui 200 000 francs ce bienfait de M. le duc de Montpensier, mais je ne lui en suis pas moins reconnaissant. Et la preuve, c'est que le 4 mars 1848, c'est-à-dire 7 jours après la Révolution de février, au milieu de l'effervescence républicaine qui remplissait les rues de bruit et de clameurs, j'écrivis cette lettre dans le journal La Presse à Monseigneur le duc de Montpensier, prince. Si je savais où trouver votre Altesse, ce serait de vive voix, ce serait en personne que j'irais lui offrir l'expression de ma douleur pour la grande catastrophe qui l'atteint personnellement. Je n'oublierai jamais que pendant 3 ans, en dehors de tout sentiment politique et contrairement au désir du roi, qui connaissait mes opinions, vous avez bien voulu me recevoir et me traiter presque en ami. « Ce titre d'ami, monseigneur, quand vous habitiez les Tuileries, je m'en vantais aujourd'hui que vous aviez quitté la France, je le réclame. Au reste, monsieur, seigneur, votre Altesse, j'en suis certain, n'avait point besoin de cette lettre pour savoir que mon cœur est un de ceux qui lui sont acquis. Dieu me garde de ne pas conserver dans toute sa pureté la religion de la tombe et le culte de l'exil. » J'ai l'honneur d'être avec respect, Monseigneur de votre Altesse royale, le très humble et très obéissant serviteur, Alexandre Dumas. À cette époque, et pendant le moment d'effervescence où l'on se trouvait, il y avait quelque danger à écrire une pareille lettre. Et vous allez le voir, cher lecteur. Le lendemain ou le surlendemain du jour où cette lettre parut, il y avait à la Bastille inhumation des citoyens tués pendant les 3 jours de 48. Ils allaient rejoindre les patriotes de 1789 et de 1830. J'assistais à cette fête avec mon costume de commandant de la garde nationale de Saint-Germain. Je revenais de la Bastille. Depuis quelque temps, j'entendais une rumeur grossissante derrière moi. À l'entrée de la rue des Granges-Batelières, je crus m'apercevoir que j'étais l'objet de cette rumeur. Et je me retournai. En effet, un homme avait ameuté une cinquantaine d'individus et me suivait avec eux. En voyant que je me retournais, cet homme vint à moi. « C'est donc toi, citoyen Alexandre Dumas ?» me dit-il, « qui appelle mon pensier Monseigneur ?»« Ben, monsieur, lui répondis-je avec ma politesse accoutumée, j'appelle toujours un exilé Monseigneur. C'est une mauvaise habitude, peut-être, mais que voulez-vous, elle est prise ainsi. « Eh bien, tiens, continua le citoyen X, voilà pour ta peine. » Et à ce bout, il tira un pistolet de dessous son paletot et me le mit sur la poitrine. Un jeune homme que je ne connaissais pas, M. Émile Mayer, qui demeure aujourd'hui rue du Buffo, numéro 17, releva avec son bras le pistolet du citoyen X. Le pistolet partit en l'air. J'avais tiré mon sabre du fourreau, je pouvais le passer au travers du corps du citoyen X. Bon, je jugeais la représaille inutile, et je rentrais chez moi. L'événement se passa en plein jour et devant 200 personnes. Il est donc incontestable, et s'il était contesté, 20 témoins seraient là pour affirmer ce que je raconte. Le bruit n'en est pas venu jusqu'à Mademoiselle Brohan. Cela n'a rien d'étonnant, on faisait tant de bruit à cette époque, surtout au Théâtre Français où Mademoiselle Rachel chantait la Marseillaise. Mais le bruit en vint jusqu'à M. le prince de Joinville. Lorsqu'il fut question de former l'Assemblée constituante, un de ses aides de camp vint me trouver de sa part. C'était un capitaine de frégate. « Monsieur Dumas, me dit-il, le prince de Joinville désire se mettre sur les rangs pour la députation. » Je m'inclinai, attendant la suite de l'ouverture. Le capitaine continua. « Oui, il me charge de vous demander votre avis sur la façon dont doit être désignée sa profession de foi. »« Oh, répondis-je, monsieur, mais c'est bien simple. » Et je pris une feuille de papier et j'écrivis « Saint-Jean du Loa, Tanger, Mogador, retour des cendres de Sainte-Hélène, Joinville. » « Voilà, dis-je en remettant la feuille de papier au capitaine, la meilleure profession de foi que, à mon avis, puisse faire monsieur le prince de Joinville. » Le prince de Joinville adopta une autre rédaction. Je crois qu'il eut tort. L'Assemblée nationale réunie, on discuta la loi d'exil. J'avais alors un traité avec le journal La Liberté. J'y étais entré au mois de mars lorsqu'il tirait à 12 ou 13 000 exemplaires. Au 15 mai suivant, il tirait à 84 000. La Liberté était devenue une puissance. C'était à M. Le Poitevin Saint-Alme qui en était rédacteur en chef. Je crus devoir protester contre la loi d'exil qui frappait tous les membres de la famille d'Orléans. J'apportai ma protestation à M. le Poitevin Saint-Alme qui refusa de l'insérer. Je rompis mon traité avec la Liberté. Puis j'allai porter ma protestation de journal en journal. Tous refusèrent. J'allai à la Commune de Paris, c'est-à-dire dans la gueule du lion. J'attaquais tous les jours Sobrier et Blanqui. La Commune de Paris fit ce qu'aucun journal n'avait osé faire. Elle inséra ma protestation. Ce n'est pas tout. Lorsque le prince Louis-Napoléon fut nommé président de la République, je lui adressai le 19 décembre 1848 une lettre sur le même sujet et qui fut publié par le journal L'Événement. Étrange coïncidence, l'événement dans lequel je demandais le rappel de tous les exilés était le journal de Victor Hugo. Ceux qui désireront lire cette lettre la trouveront à la date du 19 décembre. Enfin, lorsque le roi Louis-Philippe mourut, je fis le voyage de Paris à Clermont pour assister à son convoi, comme 10 ans auparavant, j'avais fait le voyage de Florence à Dreux pour assister à celui du duc d'Orléans. Selon toute probabilité, ces différents faits ne sont point parvenus à la connaissance de Mademoiselle Auguste Brohan. Il n'y a rien d'étonnant. À cette époque, Mademoiselle Augustine Brohan n'était pas encore journaliste. Une dernière anecdote. On se rappelle que c'est sous l'influence du duc de Montpensier que le théâtre historique s'était ouvert. Le duc de Montpensier avait sa loge au théâtre historique. La révolution de février terminée, le duc de Montpensier partit. Sa loge, dont il n'avait pas renouvelé la location, se trouvait vacante. J'allais trouver M. Holstein et le priais de ne louer cette loge à personne, la prenant pour mon compte. M. Holstein y consentit. Pendant près d'un an, la loge du duc de Montpensier resta vide et éclairée aux premières représentations comme si elle l'attendait. Il y a plus, le duc de Montpensier, à chaque première représentation, recevait avec une lettre de moi son coupon de loge à Séville. Au bout d'un an, son secrétaire intime, M. Latour, vint faire un voyage à Paris. À peine arrivé, il a couru chez moi. Il venait me faire des compliments de la part du prince. Après avoir causé de beaucoup de choses, où les sujets de conversation ne manquaient point à cette époque, nous en arrivâmes au théâtre historique. « À propos, me dit-il, ai-je encore mes entrées ?»« Où cela ?»« Ben, au théâtre historique, ben, parbleu. Enfin, je veux dire, mes entrées sur la scène. »« Avez-vous toujours votre chef de communication ?»« Oui. » Eh bien, cher ami, servez-vous-en. Les révolutions changent les gouvernements, mais elles ne changent pas les serrures. Seulement, à mon tour, à propos. Quoi ? Mais le prince reçoit ses coupons de loge, n'est-ce pas ? Certainement. Et qu'a-t-il dit quand il a reçu le premier ? Ben, il s'est mis à rire en disant « Oh, ce farceur de Dumas !» « Tiens, c'est singulier, » répondis-je à sa place. « Me serais mis à pleurer. » J'allais à mon bureau. « Vous écrivez ?» me demanda Latour. « Oh, il y a un mot. » J'écrivais en effet. J'écrivais à M. Holstein. « Vous pouvez, à partir de demain, disposer de l'avant-scène de M. le duc de Montpensier. » Je trouve que c'est un peu trop cher de payer une loge à l'année pour faire rire un prince. Tout à vous, Alexandre Dumas.